Merci beaucoup, Monsieur Barito, pour cet très intéressant exposé. Je passe la parole tout de suite à Jocelyne Couture, professeure associée au département de philosophie de l'UQAM, qui va nous présenter une communication qui s'intitule « L'avenir du nationalisme québécois, liberté, égalité, fraternité ».
Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de m'adresser à cette foule assidue depuis le début du colloque et forcément intéressée par les questions dont on débat ici. Dans mon bref exposé, je parlerai d'abord de la diversité des nationalismes au Québec, ensuite de la diversité ethnoculturelle au Québec, et finalement de la rencontre de ces deux États. Contrairement à plusieurs intervenants qui ont pris la parole jusqu'ici, j'attribue la diversité des conceptions du nationalisme que l'on peut recenser maintenant dans le paysage québécois à une tentative bien légitime de fournir une explication à ce qui, en 1995, nous a semblé inexplicable, à savoir la défaite référendaire. La gauche accusant la droite accusant la gauche et certains accusant le peuple québécois dans sa totalité pour ne pas avoir eu le courage de choisir sa liberté alors qu'il en avait l'occasion, c'est ainsi que qu'on s'est retrouvé, selon moi, avec une multiplicité de nationalismes dont chacun prétendait être en mesure de sauver la nation de la servitude. Il faut se rappeler aussi que c'est sur ce front idéologiquement divisé qu'on a ensuite vu déferler les grands débats sur la laïcité, l'immigration, les accommodements raisonnables, l'avenir de la langue française, la préséance ou non de certains droits de la personne, tous ces débats qui donnaient à chaque camp nationaliste, l'occasion de préciser ses positions en regard de toutes ces questions et, bien entendu, de se radicaliser. On s'est alors retrouvé en présence de toute une gamme de nationalismes allant d'un nationalisme conservateur extrême, une version extrême, nationalisme ethnique, jusqu'à ce que j'appellerais le nationalisme de la perfection, dont les défenseurs prétendaient bien sûr que c'est seulement après avoir rempli certaines conditions qui vont de l'éradication de la pauvreté à l'implantation de la démocratie participative en passant par la pleine égalité des femmes que les Québécois pourraient enfin songer à réaliser leur indépendance. On sait maintenant comment s'explique l'échec référendaire de 1995. Et cette explication ne renvoie ni à la gauche, ni à la droite, ni à un quelconque atavisme du peuple québécois qui en ferait un peuple peureux, indécis, confus quant à ses propres aspirations. On sait maintenant, grâce à la commission Charbonneau, et je me réfère ici en particulier au témoignage de Gilles Cloutier, que le référendum de 1995 était un référendum clé en main, concocté par des artisans longtemps rompus aux subtilités des élections clé en main.
Clé en main pour le nom?
Contrairement à ce que je suggère, évidemment. Contrairement à ce que je suggère, à ce que suggère la problématique du présent colloque, je ne pense pas qu'on doive trop s'inquiéter de la diversité des nationalismes au Québec. D'abord parce qu'elle m'apparaît, comme je viens de le suggérer, surtout conjoncturelle. Elle a pris naissance, cette diversité, et continue d'exister dans un contexte bien précis, l'échec référendaire de 1995 et les tentatives entièrement légitimes, je le répète, pour comprendre les causes de cet échec. Je pense que, règle générale, les indépendantistes qui prônent un nationalisme de gauche, de droite, conservateur ou progressiste ou internationaliste sont des indépendantistes sincères, de bonne foi, capables de reconnaître que nous avons un objectif commun et que pour y parvenir, il vaut mieux s'unir que de se diviser. Je ne pourrais pas en dire autant des partis souverainistes qui obéissent à des logiques et à des contraintes bien différentes. Et évidemment, il y aura toujours des dissensions, des conflits d'intérêts, des conflits de valeurs, des conflits entre des conceptions socio-économiques divergentes. Et le contraire, à savoir qu'il y ait un consensus ferme sur toutes ces questions, serait plutôt inquiétant dans une société qui prétend aspirer à la liberté de penser. Ce que je dis donc, c'est que l'indépendance est l'objectif commun de tous les souverainistes. Ils sauront, le temps opportun, mettre entre parenthèses les questions qui divisent et pourront reconnaître que les réponses à ces questions ne pourront être données et mises en application que dans un processus démocratique et que dans un pays où le peuple a les moyens de décider par lui-même et pour lui-même. Ce qui ne sera pas le cas tant et aussi longtemps que les Québécois n'auront pas réalisé leur indépendance. Une seconde raison pour laquelle je ne m'inquiète pas trop de la pluralité des conceptions nationalistes qui cohabitent maintenant au Québec, c'est que certaines d'entre elles ne sont tout simplement pas viables au Québec et qu'elles sont de ce fait vouées à une disparition par attrition. Une conception du Québec qui subordonne une conception du nationalisme qui subordonne la poursuite de l'indépendance à la réalisation d'une liste de conditions, dont celle que je viens d'énumérer, c'est une conception irréaliste qui ne tient pas compte du contexte dans lequel ces conditions préalables devraient être satisfaites, c'est-à-dire un contexte où ce ne sont pas les Québécois, mais le gouvernement canadien et la Cour suprême qui ont encore le dernier mot sur ces questions. Une autre conception du nationalisme qui ne me semble pas avoir un avenir très prometteur au Québec, c'est ce que ses promoteurs eux-mêmes appellent le nationalisme conservateur, prônant le retour aux valeurs traditionnelles des Québécois et qui, selon eux, serait constitutif de l'identité québécoise. Ce type de nationalisme, dans sa version extrême, il en existe plusieurs versions, mais dans sa version extrême, repose selon moi sur une prémisse voulant que les sociétés soient premièrement culturellement homogènes, deuxièmement pérennes dans leurs valeurs et leurs modes de vie, et troisièmement, ce qui est un corollaire des deux clauses précédentes, foncièrement incompatibles entre elles. Or, cette prémisse ignore la réalité non seulement de la société québécoise, mais de la majorité des sociétés contemporaines. Les sociétés, pour peu qu'elles aient jamais été culturellement homogènes, et encore on peut douter qu'elles aient pu l'être aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire de l'humanité, ont cessé depuis bien longtemps d'être culturellement homogènes. De plus, les sociétés évoluent, les valeurs changent, et on a bien souvent l'occasion, n'est-ce pas, de s'en féliciter, et elles le font sans pour autant perdre leur identité. La société québécoise n'a pas cessé d'être une société distincte en se sécularisant et en s'urbanisant. On comprend mal comment la perspective d'un retour en arrière quant aux valeurs et aux modes de vie et celle d'un isolement culturel par rapport aux autres sociétés pourrait séduire les Québécois et comment cela pourrait leur apparaître comme étant le chemin qui conduit à l'indépendance du Québec. Et on se demande en particulier ce qui, dans ces positions, pourrait bien séduire les milliers de Péruviens, Libanais, Tunisiens, Haïtiens, sans parler de tous les autres, qui sont aujourd'hui devenus Québécois. Mais évidemment, dans cette version radicale du nationalisme conservateur, ces Italiens, etc., font partie du problème qui menace l'identité québécoise et, par conséquent, l'accession à l'indépendance du Québec. Plusieurs raisons militent en faveur de l'indépendance des peuples. Chacune de ces raisons suppose à son tour une forme de nationalisme. Tout comme il y a des raisons aberrantes, il y a des nationalismes aberrants. faire l'indépendance pour pouvoir recréer en toute autarcie une identité mythique des Québécois est une raison aberrante qui soutient un nationalisme aberrant. Faire l'indépendance parce qu'elle est le couronnement légitime d'une société ayant atteint un summum de justice est également une raison aberrante qui alimente ce que j'ai appelé un nationalisme de la perfection, pour ne pas dire du peuple élu. J'utilise le mot aberrant dans son double sens étymologique. Premièrement, qui s'écarte de la réalité et deuxièmement, qui constitue une déviation du jugement, du bon sens. Mais il y a aussi des raisons non aberrantes de vouloir accéder à l'indépendance. Henri Dorion, par exemple, l'ex-président de la Société Saint-Jean-Baptiste, a longtemps soutenu, et cela m'étonnerait beaucoup qu'il ait cessé de le faire, que la protection de la langue française était la raison pour les Québécois de vouloir accéder à leur indépendance. Selon lui, si l'avenir de la langue française était acquis au Québec, le projet indépendantiste perdrait sa raison d'être. On peut être en désaccord avec lui, je le suis, sur le fait que que la langue soit la seule raison d'aspirer à l'indépendance, tout en reconnaissant que c'est une raison importante. On peut aussi arguer qu'étant donné l'indissociabilité de la langue et de la culture, la langue française constitue un puissant référent identitaire pour les Québécois, sans pour autant sombrer dans la xénophobie et le nationalisme ethnique. On peut aussi adhérer à toutes les valeurs que défendent les disciples de Françoise David, tout en reconnaissant qu'il n'appartient pas à un petit groupe, un petit comité, d'en décider pour l'ensemble de la société, et surtout de déterminer le moment où ces idéaux auront été suffisamment atteints pour que le peuple québécois ait enfin mérité le droit de revendiquer son indépendance. On peut adhérer à ces valeurs, surtout sans tomber dans cette aberration qui consiste à croire que ces idéaux peuvent être réalisés dans un contexte où le Québec est encore et toujours sous la férule politique, juridique et économique de l'État canadien. Je pense que la plupart des indépendantistes québécois, tout en étant réfractaires à ces nationalismes que j'ai qualifiés d'aberrants, acceptent volontiers que l'on puisse avoir diverses raisons d'être indépendantiste. Et comme ces diverses raisons engendrent, comme je l'ai déjà souligné, diverses formes de nationalisme, on peut en conclure que la pluralité des nationalismes au Québec, dans les limites que je viens d'indiquer, n'est pas en soi un écueil pour l'unité de la mouvance indépendantiste. On peut adhérer à un nationalisme identitaire, et je pense que plusieurs Québécois le font, tout en considérant que la diversité ethnoculturelle est une source d'enrichissement pour la collectivité et constitue un marqueur de l'identité nationale. On peut adhérer à un nationalisme de gauche ou de droite sans remettre en question le caractère démocratique des institutions politiques, juridiques et économiques dont on revendique le contrôle et l'administration. Bref, ce sur quoi je veux insister ici, c'est que ces formes de nationalisme et sans doute bien d'autres qu'on peut imaginer sont compatibles entre elles et peuvent donc converger au sein de la mouvance indépendantiste québécoise. Je voudrais maintenant aborder plus directement la problématique qui inspire le colloque, à savoir le nationalisme québécois face à la diversité culturelle. Il me paraît évident que les deux formes de nationalisme que j'ai qualifiées d'aberrantes sont réfractaires à la diversité culturelle. C'est plus immédiatement apparent pour les formes extrêmes du nationalisme conservateur qui sont finalement des nationalismes ethniques. Pour ce qui est de la deuxième forme de nationalisme aberrant, celle que j'ai qualifiée de nationalisme de la perfection, le verdict est plus subtil. Certes, son discours apparent fait grand cas, son discours apparemment, devrais-je dire, fait grand cas de la tolérance et de l'ouverture à autrui. Mais en même temps, ce discours, comme le sont tous les discours d'allégeance perfectionniste, c'est un discours doctrinaire qui balise étroitement ce qu'est le progrès social, les valeurs qui doivent le guider et les finalités qui doivent être les siennes. Même ceux qui adhèrent à cette doctrine morale et aux valeurs qui la soutiennent devraient s'inquiéter, comme je le fais moi-même, du peu de cas que l'on fait de la démocratie lorsqu'on fait d'une doctrine morale un agenda politique. Il y a des précédents. C'est sur cette base que je remets fortement en doute la capacité du nationalisme perfectionniste à s'ouvrir à qui que ce soit, incluant a fortiori ce qu'on appelle les communautés ethnoculturelles. On peut approuver bien superficiellement, à mon avis, le port du voile pour les femmes musulmanes, mais on refuse mordicus d'entendre ceux qui voudraient, par exemple, s'engager à faire l'indépendance maintenant. Pour ce qui est des autres formes de nationalisme, celles qui sont compatibles entre elles et peuvent converger au sein d'un mouvement indépendantiste unifié, il m'a semblé que la meilleure façon, la façon la plus directe en tout cas de caractériser la façon dont elles peuvent répondre à la diversité ethnoculturelle consiste à montrer comment elles peuvent se conformer aux exigences du modèle néo-républicain. Je fais référence ici aux travaux de Philippe Petit et en particulier à son ouvrage qui a été traduit chez Gallimard en 2004 intitulé « Républicanisme, une théorie de la liberté et du gouvernement ». Le modèle néo-républicain de Petit est une théorie politique de la justice, c'est-à-dire qu'il énonce les principes généraux qui doivent guider, inspirer, informer les institutions de base, la Constitution, si l'on veut, d'une société juste. Ces principes sont au nombre de trois. Le premier énonce qu'une société juste doit respecter la liberté de chacun d'élaborer et de réviser ses conceptions du bien comme il lui semble. Dans cette optique, le pluralisme et la diversité, incluant bien entendu la diversité ethnoculturelle au sein d'une société, seront vus comme une confirmation du plein exercice de cette liberté, comme une conséquence souhaitable de la liberté. Le deuxième principe énonce l'égalité des droits et des devoirs des citoyens entre eux. Ce principe concerne directement les conditions du plein exercice de la liberté. On ne se limite pas, comme dans le premier principe, à énoncer une liberté formelle, mais on va plus loin en garantissant les moyens d'exercer la liberté, que sont précisément les droits et les devoirs réciproques des citoyens. Ainsi, ce deuxième principe vient concrétiser le caractère désirable et positif de la diversité au sein d'une société. Finalement, le troisième principe, on s'y attend bien après la liberté et l'égalité, c'est celui de la fraternité qui requiert deux choses. La première étant la solidarité de tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur croyance, etc., pour le maintien d'une société juste, donc libre et égalitaire. La seconde, la coopération de tous à l'édification et à la la coopération de tous, je dis bien, à l'édification et à la poursuite des projets collectifs. Je pense que ces trois principes du néo-républicanisme illustrent bien, quoiqu'en des termes peut-être différents de ceux qu'ils utilisent, l'attitude de plusieurs nationalistes québécois face à la diversité. Et c'est là que je retrouve justement la convergence des nationalismes qui sont compatibles entre eux au sein d'une mouvance indépendantiste. Pour finir, je ferai une dernière remarque. Dans son ouvrage, Philippe Petit décrit ces trois principes que je viens d'énumérer, liberté, égalité, fraternité, comme étant les articulations essentielles d'un principe plus général de non-domination, qui, pour lui, résume l'idée même de justice sociale. Non-domination des individus par d'autres individus, la liberté de faire ses choix de vie. Non-domination des minorités par une majorité, les droits sont universels. Et finalement, non-domination d'une collectivité par une autre collectivité, autodétermination dans les choix de société. Je pense que la plupart des indépendantistes québécois n'auraient aucune difficulté à reconnaître dans ce modèle ce qui est au cœur de leurs aspirations. Je répondrai aux questions concernant l'application de ce modèle et surtout dans une société qui a une identité bien fondée. Merci.